autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour nous intéresser à un organe éminemment complexe que nous avons tous en tête et qui fait de nous ce que nous sommes, notre cerveau. Depuis la naissance, et même avant, dans le ventre maternel, comment se construit le cerveau des bébés? Comment se développe-t-il? Comment évolue-t-il tout au long de la vie? Et comment vieillit-il? Car vieillir, ça dépend surtout de notre cerveau, comme nous allons le découvrir avec nos invités, les neurobiologistes et formidables empêcheurs de penser en rond, Yvagide, qui vient de publier « Je m'amuse à vieillir, le cerveau maître du temps » et Yézéquiel Benhari, auteur des « 1000 premiers jours, comment se construit le cerveau ?» Deux ouvrages que nous vous offrons, chers amis auditeurs et internautes. Il vous suffit de nous les demander par mail ou sur notre page Facebook. Autour de la question « Pourquoi tout se joue dans notre cerveau ?» du début jusqu'à la fin, bienvenue. Irrésistible, le fou rire de la petite Gisèle, rien de tel pour bien commencer dans la vie, n'est-ce pas? Ézéchiel Benhari, bonjour.
Ah, bonjour, c'est vrai, vraiment irrésistible, on est tous très sensibles à ça.
Bonjour Yvagide.
Bonjour.
Merci d'être en direct pour nous aider à comprendre pourquoi et comment tout se joue dans le cerveau, pour le meilleur comme pour le pire, du début jusqu'à la fin. Alors Ézéchiel Benhari, vous êtes neurobiologiste, distingué par de nombreux prix scientifiques, dont le Grand Prix de recherche de l'INSERM, pour vos travaux sur l'épilepsie, l'autisme, le processus de maturation du cerveau. Vous avez fondé à Marseille l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée et vous venez donc de publier aux éditions Humaine Science les 1000 premiers jours. Alors pourquoi ces 1000 premiers jours, dès avant la naissance hein, et pendant les deux premières années en gros de la vie, sont fondamentaux, essentiels pour le développement, le bon développement du cerveau humain?
Alors, il y a plusieurs définitions des 1000 premiers jours. Moi, j'ai pris une qui n'est pas tout à fait celle de la commission Cyrulnik, parce que je pense que les choses commencent vraiment dès le début. On a des preuves, par exemple, que certaines maladies neurologiques et psychiatriques, dès le premier trimestre, il y a des soucis.
Premier trimestre de la grossesse?
Absolument. Et on sait que la grossesse, c'est vraiment la période la plus fragile de tous les points de vue. J'ai commencé à travailler dessus en 1986, quand j'ai été nommé à la succession d'Alexandre Minkowski à Port-Royal. Donc je me suis retrouvé dans une maternité où il n'y avait que ça, des femmes enceintes, des prémas, des couveuses, etc. Et je me suis aperçu qu'on savait très très peu de choses, en fait, sur comment le cerveau se développe à cet âge-là. Et donc j'ai commencé à travailler sur ce que je sais faire, c'est-à-dire enregistrer des neurones, l'activité électrique, et essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et on s'est aperçu de deux ou trois grandes règles fondamentales. La première, c'est que le cerveau en développement n'est pas un petit cerveau adulte. Il n'a rien à voir à peu près. Tout est différent. Les courants électriques, les propriétés biologiques, les propriétés biochimiques, absolument tout diffère. Ce qui a une implication directe. Une femme enceinte qui prend un médicament X, le médicament n'aura pas le même effet sur son cerveau à elle et celui de ce qui se trouve dans son ventre.
C'est un cerveau différent, ce n'est pas seulement un cerveau en devenir.
Complètement,
il est en devenir, mais différent.
Il est différent. Il y a des molécules dont on sait qu'elles ont des effets inverses, on l'a montré. Donc la femme, il vaut mieux qu'elle ne le prenne pas parce que ça peut avoir un effet X sur elle et Y sur le futur petit. Et donc, partant de là, je me suis dit, comment expliquer cela? Et en fait, on s'aperçoit très vite que, je vais prendre un exemple simple. Si moi, je bouge ma main droite, c'est un mouvement volontaire. C'est mon cerveau qui a dit, tu bouges ta main droite. Les femmes enceintes, quand ils bougent là, dans leur ventre, on a pu montrer, en enregistrant des prématurés, parce que vous comprenez qu'on ne peut pas facilement enregistrer ça chez la femme enceinte. Par contre, chez un préma, on peut. Vous prenez un préma de 28, 29, 30 semaines, vous enregistrez ces mouvements, vous apercevez au fait que la plupart de ces mouvements sont involontaires. C'est-à-dire que quand le futur bébé ou le préma bouge la main droite, par exemple, le signal qu'il y a dans le cerveau ne vient pas avant le mouvement, il vient souvent après le mouvement. Ce qui veut dire que le but de tout ça n'est pas du tout le même que plus tard. Le but est très différent. De la même façon, chez un prématuré, la rétine, par exemple, se développe à la fin du premier trimestre de la gestation. On ne voit rien du tout, évidemment, on ne se souvient de rien. Et pourtant, si c'est l'activité qu'il génère est bloqué sur le plan expérimental, le cerveau se développe mal. C'est-à-dire que l'activité électrique à ce stade-là sert à câbler comme il faut le cerveau.
Pour qu'il puisse après se développer comme un cerveau humain et correctement.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça rejoint le débat de gène-environnement. C'est complètement aberrant de penser que la construction du cerveau est une succession de gènes. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il faut contrôler ce qui se passe. Et en fait, le contrôle se fait à travers l'activité électrique et d'autres processus biochimiques qui contrôlent que vraiment ce qui s'est passé est exactement ce qu'il doit se passer.
D'où ces 1000 premiers jours, donc on l'a bien compris, dans le ventre maternel et en gros les deux premières années, pour que le cerveau soit câblé.
Voilà. C'est alors, ça, hein, alors une deuxième période qui est extrêmement importante, qui est la parturition à la naissance. Il faut savoir que chez les mammifères, le problème de la parturition à la naissance est certainement le processus biologique le plus compliqué, de très très loin. En quelques secondes, heures, minutes, il y a des choses qui doivent se passer, faute de quoi il y a les séquelles que l'on connaît. Et ce processus-là n'a très très peu été étudié, y compris dans les modèles expérimentaux. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mon labo était le seul au monde à travailler dessus. C'est-à-dire comparer comment le cerveau est quelques heures avant et quelques heures après, par exemple chez une souris.
De l'importance donc de la grossesse, de l'accouchement, hein, vraiment on va y revenir, et des années à venir. Alors à l'autre bout de la chaîne, j'ai envie de dire, à l'autre bout de la chaîne de la vie, Yves Agide, le professeur émérite de neurobiologie et de biologie cellulaire que vous êtes à l'université Paris-Sorbonne, vous êtes également membre de l'Académie des sciences, membre fondateur de l'ICM, à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris, spécialiste de la recherche sur les maladies neurodégénératives. Vous venez donc de publier aux éditions Odile Jacob, Yves Agide, Je m'amuse à vieillir, sous-titré Le cerveau maître du temps. Alors vous nous expliquez à l'autre bout de la chaîne que vieillir ne dépend pas seulement du temps qui passe, mais d'abord et au fond surtout de notre cerveau.
Oui, c'est le problème de la distinction entre l'espérance de vie chez les hommes et la longévité. La longévité, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, malheureusement, elle est limitée. On ne dépasse pas 120 ans. On ne dépassera jamais 120 ans. Voilà. Si on y arrivait, ce serait dans quel état ? Bon.
Alors c'est que la limite, quoi. C'est la
alors
borne,
que l'espérance de vie, qui est de 85 ans chez les femmes, de l'ordre de 80 ans chez les hommes, comme vous savez, alors là, l'espérance de vie, c'est extraordinaire. On a gagné 30 ans en un siècle à peu près, tout simplement parce qu'on guérit les maladies, notamment infectieuses chez les petits. Et puis, de plus en plus, si vous voulez, on guérit les maladies cardiovasculaires. Enfin, on les améliore très grandement. On guérit plus de 50% des cancers. Si bien que les personnes qui mouraient à 60 ans, aujourd'hui, meurent à 85 ans.
Donc, on vieillit.
Donc, on vieillit. Et cette période est très peu connue. Elle est très peu connue, non seulement pour les maladies neurodégénératives dont vous avez parlé, qui sont d'autant plus fréquentes qu'on
avec
est plus âgé,
âge.
Qu'on est plus âgé, c'est clair, mais aussi pour les gens qui sont en bonne santé. Et ce qui pose d'ailleurs un grand problème, puisqu'on guérit la plupart des maladies, enfin beaucoup de ces maladies, le nombre des personnes en très bonne santé, qui vont atteindre les 100 ans très rapidement, le nombre des centenaires augmente de manière spectaculaire en ce moment, eh bien, qu'est-ce qu'on va en faire ? Parce que ça pose un problème, là, qui est un problème sociologique,
et vieillir
économique.
N'est pas une maladie, hein. C'est
alors,
ça. Vous dites vous-même, on ne meurt pas vraiment de vieillesse, ou rarement
ça,
de vieillesse.
Ça, c'est un point essentiel. Les gens pensent, qu'on le dit d'ailleurs dans le langage courant, il est mort de vieillesse ou elle est morte de vieillesse. Non, on ne meurt pas de vieillesse, sauf de faim et de soif. Bizarrement, il y a des gens qui sont laissés à l'abandon et qui finissent par se déshydrater, rester tout seuls chez eux et puis mourir. Mais ils finissent par mourir d'une complication. En fait, on meurt toujours de maladie. C'est pour ça que les progrès considérables de la médecine ont consisté à traiter des maladies qui favorisaient leurs complications et qui pouvaient aboutir à la mort. Par exemple, on traite bien le diabète, on traite bien l'hypertension artérielle, on fait diminuer les taux de cholestérol, ce qui, par exemple, a transformé la vie des gens, puisqu'on ne voit de moins en moins d'hémorragie cérébrale. Le nombre des infarctus du myocarde a considérablement réduit, par exemple.
Mais on vieillit et on se sent vieux quand notre cerveau vieillit. C'est ça que vous nous expliquez.
Alors
aussi.
Alors ça, c'est le problème essentiel. Tout le monde dit « Ah, il est vieux parce qu'il a perdu ses cheveux.
» Il y a des
chauves qui sont tout à fait charmants, avec des beaux cheveux blancs. C'est pas parce qu'une femme a des rides qu'elle a l'air vieille. En réalité, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Mais je conseille aux auditeurs d'aller voir, de regarder les gens marcher dans la rue. On est vieux. Pourquoi ? Parce que physiquement, le pas se raccourcit. On est un peu plus lent. On se penche un petit peu en avant. On est vieux parce qu'intellectuellement, ben, on a des oublis bénins qui n'en a pas. C'est pas comme dans la maladie d'Alzheimer où on a des pertes de mémoire avérées. C'est qu'on oublie les choses et puis ça revient finalement après. Et puis aussi sur le plan psychologique, c'est-à-dire que bon, les émotions ont tendance à s'émousser, par exemple. Et tout ça, c'est ça le vieillissement. Et ça, c'est quoi ? C'est lié aux fonctions motrices, aux fonctions intellectuelles, aux fonctions psychologiques, aux fonctions émotionnelles qui sont celles du cerveau.
Et voilà, c'est lié à notre cerveau. Alors on peut aussi, c'est d'ailleurs le titre de votre livre, s'amuser à vieillir et même en rire. Pourquoi pas, la preuve tout de suite avec ce sketch que nous vous dédions, Yves-Agide, signé Raymond DeVos, J'ai arrêté de vieillir.
Je suis tellement content.
Quand en arrivant ici, il y a un monsieur que je connais depuis longtemps, il me dit, dites donc, vous ne vieillissez pas ? J'ai dit non, parce que j'ai arrêté. Complètement. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de vieillir. Parce qu'il n'y a pas que le tabac qui soit nocif. Hein, vieillir aussi, c'est pas bon pour la santé. Ouais, un matin, je me suis réveillé, j'avais vieilli de 10 ans. Alors hop, j'ai arrêté, vous voyez, 20 ans. C'est dur de rester jeune, hein, c'est dur. Je vous cacherai pas qu'il y a des moments, lorsque personne ne m'observe, j'ai envie de prendre un petit coup de vieux. Mais je m'abstiens. Je voudrais pas finir comme mon voisin, hein. Lui, il ne pouvait pas s'empêcher de vieillir. Eh bien, il en est mort.
Ce sont des choses qui arrivent, hein, forcément. Même si vous venez de le rappeler, Yves-Agide, on ne meurt que très rarement de vieillesse. On ne peut évidemment pas s'arrêter de vieillir, comme le dit si bien Raymond DeVos. Mais on peut s'en amuser. Enfin, on peut quoi ? On peut sortir de nos idées préconçues, parce que c'est ça quand même aussi, d'ailleurs, qui vous rapproche tous les deux. C'est le fait que vous luttez contre nos idées préconçues sur notre peur, au fond, du vieillir.
Vous permettez, en entendant génial de Raymond DeVos, je repense à ce mot d'Oscar Wilde qui dit « Le plus dur, c'est pas de vieillir, c'est de rester jeune. »
C'est-à-dire
que le problème, on vieillit, le temps passe, et aujourd'hui, les gens qui ont 75, 80, 85, 90 ans même, se sentent jeunes. Ils ont l'impression qu'ils étaient... C'est une observation, sauf pour, malheureusement, un certain nombre de personnes qui souffrent de maladies. Mais enfin, c'est très important.
Finalement, oui. C'est la manière dont on vit sa vieillesse. C'est un peu ça que vous nous... De comprendre déjà que c'est notre cerveau, hein, qui, si on ralentit un peu, ben, c'est normal. Mais il n'y a pas de quoi en faire une maladie, si j'ose dire.
C'est-à-dire qu'il y a du bon et du mauvais. Mmh. Le mauvais, c'est que, si vous voulez, tout ce qui... Le vieillissement concerne le corps. Par exemple, si vous avez de l'arthrose du genou, on peut vous changer le genou. On change des pancréas, on met même des cœurs. À la limite, on peut réparer beaucoup mieux les organes du corps. Tandis que pour le cerveau, c'est impossible. Parce que le cerveau, c'est trop compliqué. Vous avez 85 milliards de neurones, vous avez dans un millimètre cube de tissu, un petit cube de 1 millimètre, vous avez un demi-milliard de connexions nerveuses. Alors, si vous voulez, l'idée qu'on puisse changer, greffer, machin, etc., aujourd'hui, il faut que les gens le sachent, c'est de la blague. De même que l'idée qu'on puisse greffer une tête sur un corps, etc., tout ça n'a absolument aucun sens.
De même que l'immortalité, ça n'a aucun sens.
L'immortalité, ça n'a aucun sens. Alors peut-être que dans 1000 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, le point essentiel, c'est que le vieillissement tel qu'il est ressenti, c'est votre cerveau. Et là, c'est d'où l'importance de faire tout pour maintenir son cerveau en bon état.
C'est ça, à tous les niveaux, c'est-à-dire en le travaillant, en l'exerçant, et puis la bonne humeur. Moi, j'ai envie de m'arrêter sur l'image, enfin, la couverture de votre livre, hein, « Je m'amuse à vieillir », Yves-Agide, livre dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs, je vous le rappelle. Le cerveau maître du temps, alors on voit deux monsieur d'un certain âge, avec une petite barbe et une petite canne, et lundi, j'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. Et l'autre lui répond, j'ai décidé d'être en bonne santé, c'est bon pour être heureux. C'est exactement ça, en fait.
Oui. Le deuxième, en fait, c'est Voltaire qui dit ça. C'est ça qui m'a donné l'idée de faire le petit dessin.
C'est Voltaire qui dit, j'ai décidé d'être en bonne santé pour...
C'est bon pour être heureux,
c'est ça.
Oui,
hein.
Ce qui est quand même, c'est quand même la contradiction apparente. Et en réalité, si vous regardez les médias aujourd'hui, eh bien, on ne vous parle que de votre santé, on ne vous parle pas de bonheur. On vous demande d'être en bonne santé pour finalement être heureux.
Voilà. Et en fait, il faut les deux.
Il faut les deux. C'est une interaction permanente.
Autour de la question, pourquoi tout ça, ça se joue dans notre cerveau? Et pourquoi, vous l'avez dit, Ezekiel Benhari, ça se joue bien avant la naissance? Je propose d'abord d'écouter l'éclairage d'une pédiatre et neuroscientifique que vous connaissez, Ghislaine Dehaene, qui dirige l'équipe de neuroimagerie du développement à Neurospin. Elle étudie les bases cérébrales des fonctions cognitives de l'enfant et les particularités de l'organisation cérébrale du nourrisson. On l'écoute.
On s'intéresse en fait au tout premier âge, quasiment les premières semaines de vie. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment de comprendre ce qui fait de nous des êtres humains, qu'est-ce qui est déjà là au départ, qui va permettre au bébé donc, d'apprendre à parler, d'apprendre à marcher, enfin d'être de petits humains.
Ce qui veut dire aussi qu'il se passe plein de choses déjà dans la tête des tout-petits.
C'est ce qu'on a découvert déjà depuis, disons, une vingtaine d'années avec les techniques de psychologie expérimentale. Donc on va peut-être en parler, mais on avait des moyens très indirects de comprendre ce que pouvait... comprendre du monde le cerveau, la succion, le regard, on utilisait des comportements de ce type. Mais maintenant, grâce à l'imagerie, on peut voir directement dans la tête de ces bébés et on s'aperçoit qu'effectivement, ils reconnaissent plein de choses et ils savent déjà beaucoup de choses sur le monde extérieur.
Ezekiel Benhari, vous l'avez dit, tout commence avant même la naissance, dans le ventre de la mère, une période clé, on y reviendra. Et puis tout continue après la naissance, et il y a ce moment de la naissance, dans le développement du cerveau, faut vraiment que vous nous le rappeliez, parce que finalement, c'est pas très étudié, ça, le lien du développement du cerveau en fonction, lié à l'accouchement.
Alors, je vais prendre un exemple relativement simple. Imaginons que je suis dans le ventre de ma mère, et je vais naître dans 3 heures. Étant donné la complexité de ce qui va se passer... la question fondamentale, elle est quelles sont les structures du cerveau qui doivent être matures pour que je sorte et que tout se passe bien. Si on avait à spéculer, on dirait ben ramper, aller au sein et téter. En gros, bon. Il s'avère que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais le point essentiel, c'est que ce genre de question n'est pas posé. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de gens qui travaillent là-dessus. Ou on travaille, comme Ghislaine, après, parce qu'évidemment on a des moyens de faire des tas de choses après. Avant, on a beaucoup moins de moyens. Beaucoup, beaucoup moins de moyens. Et pourtant, c'est crucial parce que c'est pendant cette période-là que se construit le cerveau pour l'essentiel. Et c'est surtout pendant cette période-là qu'énormément de pathologies naissent. C'est une période extrêmement fragile. Minkowski le disait. Une des raisons, par exemple, je pense, comment se fait-il que l'incidence des prématurés a tellement augmenté? Il y a plus de prématurés aujourd'hui qu'il y a quelques années. On fait plus de CRN programmés aujourd'hui qu'il y a quelques années. Quel lien y a-t-il entre ça et la suite? Eh bien, on sait aujourd'hui que plus de préma, ça veut dire plus d'autisme et plus de maladies qui en découlent. Et la question de fond, c'est quel rapport y a-t-il entre l'émergence et l'incidence de la prématurité et les maladies qui viennent par la suite? Au fait, on pense aujourd'hui de plus en plus, c'est qu'il y a une pathologie très précoce qui se passe in utero, qui provoque et la prématurité et l'autisme qui viendra par la suite. C'est-à-dire que la...
Ce sont vraiment des périodes clés pour le câblage du cerveau. Pourquoi? Parce que le cerveau est très complexe, on le sait, très fragile, très vulnérable aussi.
Parce que à cette phase-là, la construction du cerveau est très très sensible à l'environnement, beaucoup plus qu'après. On sait par exemple qu'une pathologie, le plus elle est précoce, le plus elle sera grave. Après se pose la question, qu'on a discuté tout à l'heure, de la distance qu'il y a entre un événement pathologique et la manifestation clinique. Parfois, ça peut être des dizaines d'années. Je prends l'exemple très simple. Un bébé né cyanosé parce qu'il y a eu des complications à l'accouchement, on le ressuscite, tout va bien, la vie est belle. 30 ans plus tard, il est épileptique. Ça a pris 30 ans avant la manifestation. Et on s'aperçoit aujourd'hui, c'est parce que l'événement initial a provoqué une modification de la construction de certaines régions du cerveau et le petit... n'a pas eu de conséquences, mais 30 ans plus tard, cette même agression, entre guillemets, va provoquer un événement épileptique. C'est-à-dire que ce délai-là, est, en gros, je crois que c'est le problème essentiel de la biologie de la médecine aujourd'hui. C'est parce que nous savons tous qu'un diagnostic précoce est crucial. Pourquoi? Parce que le plus tôt vous intervenez, le plus vous risquez sinon de guérir, au moins de traiter et d'atténuer les conséquences. C'est vrai pour les maladies précoces comme c'est vrai pour les maladies tardives. Donc le diagnostic précoce est crucial. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Le problème, c'est que la distance entre le premier phénomène clinique que l'on peut mesurer et la pathologie est très grande. Je vais prendre un exemple qui va intéresser Yves, d'ailleurs. Prenez la maladie de Parkinson. Dans mon labo, Constance Samon, qui est une experte du Parkinson, travaille depuis des années sur la question suivante. Dans des modèles expérimentaux animaux de Parkinson, quelle distance, quel délai y a-t-il entre le premier signe clinique que l'on va voir chez la souris et les manifestations subcliniques sur le plan électrique. Et ça peut être des mois. Vous prenez une souris qui va être parkinsonien dans, disons, un an.
Il y a déjà des signes.
Il y a déjà des signes deux mois après la naissance. C'est-à-dire qu'il y a des signes, on le sait depuis très longtemps dans toute une série de maladies. C'est-à-dire qu'il y a des signes qui sont avant-coureurs, que l'on ne sait pas déceler. Et ce que je suis en train de dire, et c'est là l'origine du concept que j'ai proposé, qui s'appelle neuroarchéologie, en gros, il dit quoi ?
Neuroarchéologie
dit quoi ?
D'aller fouiller dans le passé neurologique.
En fait, c'est très simple. Cette maison a été construite, il y avait un architecte, il y avait des réunions de chantier, et on vérifie au cours de la construction que le plombier, le maçon ont fait ce qu'il fallait. Si on prend le cerveau, qui est, comme disait Yves, autrement plus compliqué, alors il peut y avoir peut-être un programme, on n'est pas certain qu'il y a. Mais imaginons qu'il y a un programme. C'est quoi la réunion de chantier ? La réunion de chantier, c'est justement ce qui contrôle quand la construction se fait comme elle devrait se faire. D'accord ? Maintenant, s'il y a un événement pathologique qui intervient in utero, j'ai démontré avec mes équipes que les cellules qui sont atteintes par l'événement pathologique ne vont pas aller là où elles devraient aller. Vous savez que dans la construction du cerveau, les cellules se divisent, après elles migrent, elles vont quelque part où elles doivent se mettre, elles se connectent avec leurs copines pour générer un réseau. S'il y a une agression in utero, quelle que soit son origine, pesticides, alcool, stress, tout ce que vous voulez, les cellules ne vont pas aller là où elles devaient aller, vont aller ailleurs. Et j'ai proposé que la maladie est due au fait que ces cellules sont ailleurs. Et en plus, j'ai proposé que ces cellules qui sont ailleurs ont gardé des propriétés immatures. Ça, c'est à l'origine de tout ce que je fais sur l'autisme.
Alors, vous menez des recherches sur l'autisme à partir de toutes ces questions-là. Moi, j'ai envie de poser une question par rapport à ça. On va revenir sur l'importance pendant la grossesse, au moment de l'accouchement, l'importance de l'environnement, l'importance effectivement de tout ce qui peut être absorbé par ce cerveau non encore mature du nourrisson ou de l'enfant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un effet, comment dire, inverse ? Est-ce que ça ne va pas faire extrêmement peur de se dire, mais oulala, mon enfant à naître, on ne peut pas le laisser. Évidemment, si on sait traiter, oui, mais voilà, si on ne sait pas traiter, est-ce qu'on ne va pas être encore plus peureux, encore moins heureux, si j'ose dire ? Et du coup, on va développer des pathologies, j'exagère un peu.
Je vais vous dire, Caroline, la réponse à ça est en fait très simple. Il y a deux réponses. La première, je ne connais pas d'exemple en science où une découverte n'a pas, à un moment donné ou à un autre, permis des avancées. Alors certes, les politiques, parfois, la dévient, bombe atomique, tout ce que vous voulez, mais ça, c'est pas le rôle scientifique d'un citoyen comme un autre. Donc la première réponse. La deuxième réponse, si on prend les maladies qui m'intéressent comme l'autisme, la réponse est extrêmement simple. Un bébé de 1 an, si on pense qu'il va devenir autiste, et si on commence à le traiter sur le plan comportemental, regarde-moi ici, regarde mes yeux, etc., etc., ça a tenu énormément la sévérité par la suite. Donc il y a des moyens de le faire. Tout le problème, c'est qu'on ne sait pas, notamment en France, faire un diagnostic aussi précoce que ça. C'est un très gros problème. Parce qu'une fois qu'on saura le faire, et je suis en train de travailler sur la possibilité de faire un pronostic de l'autisme extrêmement précocement, par toute une série de raisonnements. Donc, le diagnostic précoce est crucial, et ça n'est pas vain vis-à-vis des parents des enfants autistes, parce que c'est leur dire, si vous vous occupez bien de vos enfants en faisant toute une série de tests à l'aide d'aide psychomoteur, etc., le syndrome autistique sera vachement atténué.
Autour de la question pourquoi tout se joue dans le cerveau, avant même la naissance, on l'a compris, et même pendant l'accouchement, on commence, si vous le voulez bien, par ce qui suit, par accueillir bébé comme il se doit, en musique évidemment, avec les Ap Mama sur RFI. Bienvenue à bébé.
Bébé. Bienvenue à Clara, bienvenue à bébé. Bienvenue à Zeki, bienvenue à bébé.
Mama,
à bébé sur RFI, les apps mama et leurs apps bébé autour de la question pourquoi tout se joue dans le cerveau depuis le commencement jusqu'à la fin, en compagnie des neurobiologistes Ezekiel Benhari et Yves Agide qui viennent de publier respectivement les 1000 premiers jours et Je m'amuse à vieillir, deux ouvrages que nous vous offrons, chers amis auditeurs et auditrices. Il vous suffit de nous les demander par mail ou sur notre page Facebook pour mieux faire, savoir comment mieux faire avec notre cerveau. Tout de suite, une nouvelle question pour vous deux messieurs, soulevée par notre consoeur Cécile Lestienne du mensuel Cerveau et Psycho.
Est-ce qu'il y a des études qui montrent vraiment que si les 1000 premiers jours de la construction de cerveau se passent au mieux, on vieillira mieux de façon certaine?
Qui veut répondre à cette question malicieuse, Yves Agide?
Ben, la réponse, c'est oui. Mais le problème, c'est que je ne connais pas de travaux scientifiques qui permettent d'étayer cette hypothèse. Mais c'est le bon sens. Un, si vous avez une maladie au cours de la grossesse qui touche le cerveau à la naissance ou dans les premiers jours, il y a éventuellement des séquelles qui restent parce que des cellules auront disparu et que, souvent avec un certain délai, dont on peut expliquer la nature d'ailleurs, vont apparaître des maladies. Mais surtout, ce qui est important, c'est l'idée que l'éducation, c'est-à-dire l'environnement, va jouer un rôle fondamental sur le développement de l'enfant. Pourquoi ? Parce que son cerveau, qui pèse 300 grammes, le nouveau-né, à la naissance, quand il aura 15 ou 18 ans, il va peser 1,3 kg. Presque 3 livres, vous vous rendez compte. Donc il y a des modifications formidables qui se passent pendant tout ce temps et qui sont d'autant plus importantes que le bébé est petit. Par conséquent, des événements extérieurs qui risquent, comme tu l'as dit tout à l'heure, de modifier l'organisation extrêmement complexe qui se développe au cours du développement, ça peut être catastrophique. Mais beaucoup plus subtilement, comme je le dis maintenant, l'interaction avec l'environnement, avec la maman, et Dieu sait s'il y a des travaux qui ont été faits sur ce sujet-là, la relation affective, la relation intellectuelle, c'est-à-dire les mots, parler avec un enfant, le confort, évidemment, tout ce qui concerne l'entourage et la nourriture du bébé, etc., vont jouer un rôle. Ça n'est pas démontré, mais moi, j'ai la conviction, voilà, je fais l'hypothèse, que ces événements, cet environnement joue un rôle d'autant plus important qu'on est dans les tout premiers jours, tous les premiers jours du développement. Quand vous avez 10 ans, déjà, on sait que ça joue beaucoup, l'éducation, à l'école, etc.
Mais
quand vous avez
début,
15 ans aussi, oui. Mais oui, parce que plus peut-être encore dans les premiers jours.
Les vrais moments clés, c'est vraiment le début, dans le ventre, l'accouchement, et les tout premiers jours, les toutes premières années, premiers mois.
Je dirais la même chose qui vient un tout petit peu différemment. Il y a des preuves irréfutables que ce qu'on appelle la plasticité, c'est-à-dire la capacité de se réarranger, de se modifier, est particulièrement importante au début. On a d'expérience chez le chat, chez le rat, chez l'homme, etc. Deuxième sujet, l'homme est un animal social. Il apprend tout tôt. On ne naît pas en sachant ce que c'est que rire, ou pleurer, ou ce que vous voulez.
On ne sait rien faire quand on est. On est totalement dépendant.
On sait faire des choses, mais il y a des choses qu'on apprend en contact, en sociabilisation. Prenez l'autisme. L'autisme, c'est quoi ? On dit que c'est une absence d'empathie. Pas du tout. C'est qu'il y a des choses qui sont passées tôt, qui sont mal passées. Et pour reprendre l'exemple de la croissance du cerveau, quand on mesure la croissance du périmètre crânien, nous on l'a fait, d'autres l'ont fait, in utero, évidemment il augmente. On sait aujourd'hui qu'il s'arrête de croître juste avant la naissance.
L'argument, le périmètre crânien, oui, parce qu'il ne pourra pas sortir. Cerveau, oui, bien sûr.
Je vais sortir autant que je ne sois pas trop gros. Nous sommes en train de montrer, on a montré déjà chez l'animal, que cet arrêt n'était pas respecté chez la souris qui va devenir autiste. C'est-à-dire que même ce processus-là est impacté par ce qui va se passer par la suite. Alors évidemment, comme disait Yves, on ne peut pas démontrer, parce qu'il faudrait travailler sur 70 ans. Je veux dire,
oui, bien
statistiquement,
sûr,
et ce genre de travail ne sera jamais financé, parce qu'on ne parle pas ici finance, mais le financement de la recherche, comme vous savez aujourd'hui, est de plus en plus étiqueté projet A qui va donner résultat B. Ce qui, à mon avis, est une catastrophe. Parce que
qui ne laissera pas le temps d'une vie pour
mais non,
effectivement
et en plus, les découvertes, du cerveau. Les découvertes se font toujours en dehors des autoroutes, dans des sujets qui sont des sujets à risque. Donc ça, ce n'est pas un sujet qui sera abordé. Donc on va apporter la démonstration. Mais il y a d'autres domaines où on sait que c'est le cas. Par exemple, l'hormone de l'amour, l'ocytocine, joue un rôle crucial à la fois dans la naissance, ça on le sait, la contraction de l'utérus notamment, mais ça joue aussi un rôle important dans l'attachement de la mère et du petit.
L'hormone de l'attachement, hein,
absolument. Absolument. on sait qu'il y a une absence d'attachement dans certains cas quand l'hormone n'est pas là. Donc, c'est-à-dire que et cet attachement et tout ce qui est autour de le comportement social, et encore une fois, l'homme est avant tout un animal social, avant tout. Et quand cette phase-là se passe mal, sans parler des maladies qui peuvent venir en plus, évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait des conséquences à long terme, c'est évident.
Le cerveau est plastique, vous l'avez dit, le cerveau est de plus en plus plastique, enfin, est beaucoup plus plastique au début de la vie, hein, au tout début de la vie, des humains et puis des autres mammifères autour de la question pourquoi tout se joue dans le cerveau et comment mieux connaître les processus de construction mais aussi de dégénérescence du cerveau. Les chercheurs comme vous s'intéressent aussi, on l'entend bien, à d'autres animaux que les humains. Il y a notamment un cas extrême, celui du rat taupe nu, animal franchement peu ragoûtant, mais à la longévité surprenante que l'on peut découvrir entre autres dans cet extrait documentaire que lui a consacré National Geographic.
Si vous allez au-delà de son aspect bizarre, vous découvrirez un être si robuste qu'il pourrait nous rendre la vie bien plus supportable. Il s'agit du rat taupe nu. Il peut se contenter de 33% de l'oxygène dont une créature de sa taille aurait besoin. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le rat taupe nu ne vieillit pas. Contrairement aux autres animaux de sa taille qui ne vivent que quelques années, le rat taupe nu est capable de subsister dans les tunnels plus de 30 ans. Ce sont les rongeurs qui vivent le plus longtemps au monde.
Quel est le secret de longévité du rat taupe nu, Ivagine ? Enfin, moi, j'aimerais pas être un rat taupe nu, je dois dire, hein, même si je peux vivre très très longtemps, vu son aspect et vu sa vie pas très agréable dans les tunnels. Mais pourquoi est-ce que ça nous intéresse et pourquoi est-ce que ça peut intéresser les chercheurs comme vous ? Dans votre ouvrage, hein, vous citez tous les autres animaux. Et puis, alors, ceux, il y a encore mieux. Hein, il y a une hydre d'eau douce qui pourrait peut-être vivre jusqu'à 1400 ans si elle n'est pas mangée avant. Enfin, ça existe, hein, des...
L'hydre, c'est pas, en fait, elle ne vit pas tellement longtemps parce qu'elle est mangée.
Ben, c'est ça.
Oui. Et quand on la coupe, elle repousse. Mais non, le rat taupe, j'en ai eu en effet dans les mains. Comme ça, c'est un animal qui est ragoûtant, vraiment. C'est pas très agréable. On ne sait pas du tout pourquoi.
Il est blanc parce qu'il a que la peau, il n'a pas de poils.
Il a de la peau, c'est comme une souris, si vous voulez, comme une grosse souris qui est sans poils. Il est lent, il bouge lentement, etc. On ne sait pas. Alors, le fait que ce râteau vive effectivement jusqu'à 30 ans, ça a été montré, montre que ça, c'est inné. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans son génome qui est tel qu'il peut vivre longtemps. Et alors, il a des capacités de résistance, en particulier parce qu'il a ses capacités de résistance extraordinaires. Mais il y a des animaux qui vivent encore plus, par exemple les petits tartigrades.
Les tout petits petits
comme des petits cochons minuscules, etc. On peut tremper à moins 200 degrés, qui peuvent rester pendant des années sans respirer, etc. C'est extraordinaire. L'animal, en fait, pour ce qui nous concerne, qui vit le plus longtemps, sont certains coquillages. Il y a même un coquillage qui a vécu plus de 500 ans, qui a dû naître en 1500 et quelques, c'est assez extraordinaire. Mais ce qui est étonnant, effectivement, c'est que la longévité de tous les animaux est limitée. Une baleine bleue, ça peut vivre 200 ans. Un chat, ça vit 20 ans. Un chien, 15 ans. Une bactérie, 20 minutes. C'est assez fixe. Ce mystère n'est pas résolu. Personne. Et pourtant, il y a beaucoup d'équipes qui cherchent à cloner les gènes, etc. Pourquoi ? C'est tout simple. C'est qu'on pensait que dans le gène, il y a une petite modification qui entraîne quelque chose. En réalité, les gènes, c'est-à-dire notre ADN, ce qui se trouve dans les chromosomes, eh bien, c'était tellement compliqué. C'est fait d'une quantité quasi infinie de petits éléments qui se régulent les uns les autres. Et donc, on ne sait pas répondre à la question aujourd'hui. Ça n'est pas un mystère. Pour moi, c'est une énigme. C'est-à-dire qu'un jour, on saura répondre à ça.
On saura répondre pourquoi est-ce qu'on vit aussi longtemps, mais on ne saura pas plus pour autant. Enfin, il n'y a pas d'immortalité. De toute façon, ça n'existe pas.
Sauf l'hydre, parce que...
L'hydre
d'eau douce, parce que c'est comme...
C'est comme la queue du lézard, elle repousse toujours.
Oui, mais c'est des animaux d'une simplicité extrême, et si on les coupe en morceaux, elles redonnent d'autres animaux, comme ça, qui se reproduisent. Oui,
moi, je trouve que la façon dont la question est posée, ce qui m'embête, c'est que l'on... On essaie d'extrapoler à partir des exceptions. Et moi, je suis toujours un peu dubitatif. Et ça va toujours dans le même sens. C'est-à-dire, ah bah oui, si lui, il peut vivre 30 ans alors qu'il aurait dû vivre 2, on va trouver le secret, comment nous allons vivre plus. C'est une ânerie complète. Et c'est une ânerie complète pour la raison, c'est que nous savons tous que au fur et à mesure que le degré de complexité dans l'organisme s'accroît, ben y a des séquelles. Il y a des animaux, on coupe la moelle épinière, elle repousse, la vie est belle. Nous, non. Ça s'est fait au détriment de certaines choses, avec certains avantages, ici notamment.
Mmh, on peut donc se parler, on peut se comprendre.
On peut se parler, oui, on peut se comprendre, on peut aller sur la Lune, etc.
C'est ça.
Donc ces avantages-là, ils résultent de ce que nous sommes. C'est-à-dire que si l'homme n'était pas sociétal, il n'y aurait pas tout ça. Et donc, je ne vois pas pourquoi la compréhension de ces exceptions nous permettrait à nous, si tel était le but, hein, de vivre plus longtemps et être immortel. Ça n'a pas... Il faut aussi rappeler que l'espérance de vie, que certains citent comme étant la preuve qu'elle va augmenter indéfiniment, il y a des pays dans lesquels elle baisse. Mm-hmm. États-Unis et Russie, par exemple. Il suffit qu'il y ait une nourriture, une épidémie, plus de vodka, plus de tout ce que vous voulez. Donc ça n'a pas de sens, en fait.
Et puis elle n'augmente pas. Ce que vous montrez aussi, Yves-Agile, dans votre livre par rapport au vieillissement, c'est que le vieillissement, il n'est pas uniforme. D'abord, il n'est pas le même pour tout le monde et il n'est pas uniforme, justement.
C'est capital. Alors, un, on l'a dit, ce qui compte dans le vieillissement, c'est le cerveau. C'est d'autant plus important que nous sommes notre cerveau. Mon cerveau, c'est moi. Je suis mon cerveau. Le reste du corps, c'est très important, bien entendu, parce que ça n'aurait pas de sens sans ça. Mais ça ne fait qu'exécuter ce que mon cerveau demande. Et la deuxième chose aussi qui est très importante, vous l'avez dit, c'est que notre cerveau vieillit en pièces détachées. D'ailleurs, on le sait, par exemple, prenez une centenaire qui est complètement démente, par exemple, mais qui n'a pas une ride. Mais l'inverse peut se voir. Donc on sait que des gens peuvent avoir la peau qui vieillit alors que le cerveau reste en bon état, ou vice-versa, etc., etc. Le vieillissement du corps se fait de manière différente selon les individus et chez un même individu. Mais pour le cerveau, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'un cerveau, c'est 1 million de fois plus compliqué que le reste du corps.
Et comment faire
et donc,
la différence
entre...
Il
peut y avoir des vieillissements qui soient partiels, de petites parties du cerveau, dont certaines ne vont pas se voir immédiatement, ou d'autres vont se voir très rapidement. Par exemple, si vous avez un vieillissement important des structures qui gèrent la mémoire, par exemple dans ce qu'on appelle l'hippocampe, à la partie intérieure du cerveau qui est derrière les tempes, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir des troubles de la mémoire qui vont s'installer. Mais peut-être que d'autres petites parties du cerveau vont vieillir, par exemple, qui vont entraîner le fait que vous allez vous pencher un peu plus en avant, ou que le pas va être un tout petit peu plus court, des choses comme ça. Ça, on n'y prête pas attention.
Or, il faudrait peut-être y prêter attention, en prendre conscience pour, non pas se rassurer, mais pour vivre comme ça, et comme le disait aussi Ben Harry, parce qu'on est tout ça, et parce que du coup il y a peut-être un peu moins de mémoire, peut-être un peu autre chose, peut-être moins focalisé sur ses rides ou ses cheveux blancs, et peut-être un peu plus regarder comment on fonctionne à l'intérieur de notre tête, comment tout ça marche ou pas.
Oui, vous avez raison, mais moi je suis un tout petit peu agacé par les narcissismes qui consistent à faire attention à tout, à se mettre des pommades pour pas avoir de rides, à manger des compléments alimentaires qu'on retrouve joyeusement dans les urines, qui passent sans aucun intérêt, pour ne vieillir moins, la chirurgie esthétique qui donne des désastres sur un certain nombre de dames, je le regrette tellement, moi qui trouve que les vieilles dames sont si jolies, etc. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il faut, on pourrait imaginer, parce que ça ne se fait pas aujourd'hui, que ces petites parties de vieillissement que j'ai citées, qui traduisent le regard qu'on a sur vous parce que vous vieillissez, on pourrait imaginer, si on y fait un peu attention, de faire en sorte qu'on compense. Par exemple, quelqu'un qui a des petites difficultés pour marcher, parce que la marche est plus lente, plus raccourcie. Ce n'est pas quelqu'un qui a de la coxarthrose, hein. Mais si on remarque ça, on peut se dire c'est peut-être le temps très précocement de le compenser, par exemple, en faisant des exercices adéquats, en marchant plus longuement, etc.
Autour de la question, pourquoi tout se joue dans notre cerveau du début jusqu'à la fin? Allez, on écoute une senior qui n'a pas vu le temps passer, c'est Catherine Ringer sur RFI.
Vous écoutez RFI autour de la question.
C'était comment avant d'être un œuf? Avant d'être un œuf? Je sais pas, mais en tout cas... Après l'œuf, j'étais poussin, c'était bien. Je passais cadet.
vie et me voilà.
Et alors, Seigneur, c'est comment?
Seigneur? J'adore. J'adore. Le jeu avance. Ce sont là de très bons niveaux. Toujours intense. Samba.
J'adore. Catherine Ringer sur RFI. Autour de la question pourquoi tout se joue dans notre cerveau, en compagnie du professeur de neurobiologie Yves Agide, qui vient de publier Je m'amuse à vieillir, le cerveau maître du temps, et du neurobiologiste Ézéchiel Benhari, auteur des 1000 premiers jours, comment se construit le cerveau. Ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditrices et auditeurs. Vous pouvez tenter votre chance par mail ou sur la page Facebook d'Autour de la question. En attendant, on continue de s'interroger ensemble autour d'une question que nous avons commencé à soulever et qui cette fois-ci est posée par une jeune et très talentueuse numéricienne et entrepreneuse qui était récemment notre invitée, Aurélie Jean. On l'écoute.
C'est pas une question scientifique par contre, mais c'est vrai que lorsqu'on pense vieillir, on pense tout de suite vieillir physiquement et que les gens sont obsédés en fait par le caractère physique du vieillissement et pas assez selon moi du caractère cérébral, je sais pas comment on peut dire ça, du vieillissement. Et du coup, c'est la question qui pourrait être par rapport à ça, est-ce que vous pensez en fait que les gens prennent conscience en fait que leur cerveau est aussi quelque chose qui vieillit et qu'on peut ralentir le vieillissement, et comment?
Vous l'avez dit, vous l'avez écrit, Yves Agide, vous n'aimez pas les recettes miracles, hein, c'est pas du tout ça que vous donnez. Par contre, dans cet ouvrage, Je m'amuse à vieillir, vous nous donnez quand même des pistes pour mieux affronter ça ou traverser au fond cet âge que nous allons tous traverser et qu'on souhaite quand même tous traverser.
Alors, en effet, il n'y a pas de médicament qui soit capable de ralentir le vieillissement normal, entre guillemets normal.
Oui, il y a une différence quand même entre... C'est quoi la différence entre un vieillissement normal et un vieillissement pathologique?
Le vieillissement normal, c'est simplement le fait que les cellules nerveuses, nos neurones, pour l'essentiel, s'altèrent, perdent leur connexion nerveuse, et donc la transmission des informations au sein du cerveau s'effectue, disons, de moins en moins bien avec le temps, avec les années qui passent. Mais tandis que dans une maladie neurodégénérative, vous avez une perte des neurones. Ça, c'est capital.
Alors que normalement, vous dites bien, vieillir, ce n'est pas de la perte de neurones, normalement.
Normalement, un vieillissement normal, normalement on... contrairement à ce qu'on croit, enfin, les comptages cellulaires que nous avions faits dans le vieillissement normal idéal, les super normaux, hein, puisque chez des centenaires, nous avions vu que les comptages de cellules étaient les mêmes chez des centenaires ou chez des jeunes gens, par exemple.
Donc, si tout va très bien et qu'on vieillit très bien, on ne perd pas.
Normalement pas. Ceci étant, le cerveau est tellement complexe que, comme je le disais tout à l'heure, il peut qu'il y ait des petits vieillissements distincts en pièces détachées au sein du cerveau. Mais a priori, il y a une distinction ferme entre le vieillissement du cerveau normal et les maladies neurodégénératives du type Alzheimer, du type Parkinson, etc. Encore que, qu'est-ce qu'on serait si on avait tous 150 ans? Je ne suis pas persuadé que nous ne soyons pas tous déments et tous
oui, avec c'est des pas ça qu'il faut chercher, c'est chercher à bien vivre les années que nous avons à vivre. Comment vous faites d'ailleurs tous les deux? Moi, c'est une petite question que je me pose. Vous n'êtes pas spécialement jeune, vous n'êtes pas spécialement âgé non plus, mais quand même, tout a l'air de fonctionner extrêmement bien.
Mais je crois que le secret, il en parle dans son livre d'ailleurs, le secret, c'est être en activité. Si moi j'avais pris ma retraite à l'âge où j'ai pris ma retraite, probablement je serais mort là. C'est aussi bête que ça.
Vous pensez ça, qu'il faut faire fonctionner, enfin,
il faut travailler. Que le cerveau continue à travailler. Moi, je suis dans des conditions où j'aurais pu prendre ma retraite dans de très, très bonnes conditions avec ce que j'ai fait sur l'autisme, etc.
Bien sûr.
Avec Servier et d'autres. Ben oui, mais j'ai préféré continuer à travailler. Je ne m'en plains pas parce que je trouve que il faut que... Vous savez, c'est comme la gymnastique, dans le fond. Essayez de considérer le cerveau comme un muscle. Vous l'utilisez, il est costaud. Vous ne l'utilisez pas, il est rétréci. Et donc, le cerveau fonctionne moins bien. C'est exactement la même idée. Et le secret, en fait, c'est de le faire travailler. Exactement comme un muscle.
Avec cette idée, oui, Ben, imagine. Que quand tu fais de l'exercice physique, en fait, c'est ton cerveau qui commande.
Oui, bien
donc,
sûr.
Non seulement tu renforces tes muscles, mais justement, tu renforces ton cerveau. C'est-à-dire
donc
que
tous les exercices sont bons, c'est-à-dire les exercices intellectuels comme les exercices physiques.
À quoi ça sert un cerveau? Ça sert à bouger, ça sert à penser et ça sert à avoir des émotions, pour l'essentiel.
C'est déjà pas mal.
En dehors de la gestion du corps. Donc, ces fonctions ayant tendance à s'affaiblir avec le temps, chez des gens très âgés, eh bien, il faut essayer de compenser. Et on peut le compenser de deux manières. Premièrement, vous faites de la marche, par exemple, physiquement. Vous pouvez avoir de l'interaction sociale pour des raisons qui améliorent vos émotions, qui donnent des satisfactions d'être avec les autres. Et puis aussi, de la même chose sur le plan intellectuel, de lire, d'aller à des conférences. Enfin, bref,
ou d'écouter autour de la question, ou de lire vos deux livres, parce qu'on va malheureusement devoir s'arrêter là. Donc je vous remercie beaucoup à tous les deux. Merci Ézéchiel Ben-Hari. Donc je rappelle le titre de votre livre, « Les 1000 premiers jours ». Paris aux éditions Humaine Science. Merci Yves Agide. Le titre de votre livre, c'est « Je m'amuse à vieillir » aux éditions Odile Jacob. Je vous rappelle, chers amis, auditrices et auditeurs, que vous pouvez gagner ces deux livres si vous nous les demandez par mail sur notre page Facebook. Et puis messieurs, je propose qu'on reprenne, parce qu'on n'a fait qu'aborder, finalement, un petit bout de l'importance du cerveau. Depuis avant notre naissance, on a bien compris, avec moments clés, grossesse, accouchement et premières années, et puis en essayant jusqu'au bout. Merci à tous les deux d'être venus en direct.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté. Vous et même vous abonner au podcast Autour de la question sur votre application favorite ou même sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver demain avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses pour nous demander pourquoi et comment observer l'océan vu du ciel. Rencontre avec une pionnière de l'océanographie spatiale, la professeure Annie Cazenave. À demain, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.